Chapitre 11. Comme le cours des ans a été rapide, est-ce bien moi qui suis rentré dans la vie active du désir et du rêve? Malgré la métamorphose que je crois avoir subie, me voici revenu au point de départ de l'existence. Jeune d'une autre jeunesse, plus jeune que je ne l'ai jamais été, car il s'agit d'un être que j'aime infiniment plus que moi-même, je recommence les rêves d'autrefois. Les vieux rouages ont repris la plus étrange activité et tous les habitants du palais enchanté de mon moi intime ont franchi le seuil de leur superbe impassibilité pour entrer dans le chemin de l'éternel humain. Pendant l'hiver de cette année, où je me retrouve absorbé dans la pensée du mariage de ma fille, mon mari avait reçu une lettre de M. Marien qui le priait d'accueillir avec bienveillance un de ses parents, officier en garnison à Paris. Gilberte et lui s'étaient rencontrés fréquemment dans le monde et M. Carvon ayant été envoyé à Saumur, ma fille avait déclaré tout à coup que, lasse de la vie mondaine, elle n'aspirait plus qu'au repos de Roche-Plate. Voilà pourquoi, un après-midi de mai, j'étais assise dans la grande baie du salon et rêvais en contemplant Gilberte. Elle se promenait seule, mais je savais que sa solitude n'était qu'apparente, que les espoirs joyeux se pressaient en foule sous ses pas, comme des seigneurs charmants qui formaient autour d'elle une cour brillante. Son visage, heureux et reposé, m'apprenait qu'elle regardait en elle-même l'avenir, dont elle ne voyait que les promesses de bonheur. Elle sentait inconsciemment, en jetant les yeux sur l'ensemble des beautés qu'elle aimait, que la vie extérieure donnait un nouvel épanouissement à ses espérances. Elle-même, si jolie, si pure, était en harmonie avec la beauté qui la charmait, et moi, orgueilleuse de cette belle plante qui était toute ma joie, je la regardais avec un bonheur impossible à exprimer. Malgré sa jeunesse, je désirais la marier, parce que, me sachant malade, je voulais la voir heureuse avant de partir. Je savais, du reste, qu'elle était armée pour la vie et que les épines du chemin développeraient sa valeur morale. Le fond sérieux de sa nature avait grandi, bien qu'elle eût conservé une gaieté d'enfant. Elle m'aimait d'une tendre affection qui me reliait à celle que j'avais connue, et je songeais combien il était singulier que je fusse déjà pour elle ce que les vieux habitants du pastel avaient été pour moi. La porte s'ouvrit et on annonça M. Marien. C'était la première fois depuis 15 ans qu'il revenait à Roche-Plate pendant le court séjour que j'y avais fait chaque année. J'attendais sa visite, néanmoins ce fut avec la plus vive émotion que je me levai et lui tendis la main. Mais le passé qui entrait avec lui était si bien voilé que je n'en distinguais plus les contours. L'homme que je revoyais était l'ami sur lequel, autrefois, mon inexpérience s'appuyait sans crainte et que mon expérience d'aujourd'hui accueillait avec une joie tranquille. Ses cheveux avaient grisonné, son visage avait bien vieilli et sa taille était devenue plus lourde. Instinctivement, mon regard se tourna vers la glace. Il se mit à rire et je revis son expression spirituelle quand, répondant à ma pensée, il me dit « Rassurez-vous, des yeux comme les vôtres peuvent-ils jamais vieillir ? » Il regardait autour de lui, songeant au passé enfoui sous une poussière à laquelle ni l'un ni l'autre ne voulions toucher, de peur de profaner un mort. Et puis, c'est si triste de retrouver bien sèche la fleur qui a été bien vivante. Pendant qu'il me parlait, je rêvais malgré moi en face du fleuve toujours le même, en face du parc dont les fleurs s'entr'ouvraient dans une vie nouvelle. Une chose non plus n'avait pas vieilli, c'était sa voix au timbre sympathique. Elle déchirait un peu les voiles qui me cachaient le passé et lui redonnait un instant de vie fugitive. Mes yeux s'arrêtèrent sur ma fille qui s'amusait comme une enfant à ouvrir les bourgeons d'un arbuste. La vieille fine, que j'avais installée pour quelque temps au château, était auprès d'elle et lui adressait des remontrances. De nouveau, le passé s'enveloppa complètement dans ses voiles. « Si le regard ne vieillit point, me dit Marien en souriant, je vais commencer à croire que le moral lui aussi ne change pas. Vous êtes toujours la femme rêveuse et distraite que j'ai connue. »« On rêverait à moins, » répondis-je gaiement. « Avez-vous vu Gilberte ? » Non, et je voudrais bien la voir. Eh bien, regardez-la, elle est dans un cadre qui lui va. Elle riait en écoutant discourir la fille, dont la petite silhouette toujours droite, mais un peu rapetissée, était bien l'antithèse de sa jeunesse. Gilberte était de grandeur moyenne. Elle avait le visage fin, régulier et distingué de son père. Ses cheveux étaient châtain blond et ses sourcils presque noirs. De loin, ses yeux paraissaient semblables aux miens, seulement ils étaient d'un bleu foncé et riant comme sa bouche fraîche. Elle avait le teint d'une blonde et une taille encore un peu frêle, dont l'élégance naturelle était charmante. Elle formait avec la fine un groupe pittoresque devant lequel Marien se mit à rire. Lorsqu'on a entendu parler d'une femme avec un enthousiasme sans bornes, me dit-il, il est rare qu'on n'ait pas une déception en l'en voyant. Mais elle est en dehors de la loi générale. Puis, se rasseyant, il ajouta, « Vous savez que je viens de comploter son bonheur ?» À ce mot de bonheur, prononcé jadis entre nous, la même pensée nous vint simultanément, et je le regardai en face pendant qu'il éprouvait un embarras qui me fit sourire. « Un bonheur qui sera le mien, lui dis-je, un bonheur intense que je serai heureuse, bien heureuse, de recevoir de votre main. » Il ne répondit rien. Je voyais qu'il était ému et que, sous la poussière, la fleur sèche avait conservé un vague parfum. « Monsieur d'Orville m'en a parlé, repris-je. Il paraît satisfait des circonstances extérieures de ce projet. » « Il a raison, elles sont parfaites. » Il commença à m'énumérer les qualités de Monsieur Carvon et les avantages du mariage. Je le laissai parler longtemps. « Vous savez, lui dis-je, en quoi consiste pour moi le bonheur de ma fille ?»« Je crois le savoir. »« Ah ! M'écriai-je avec mon ancienne ardeur, il ne s'agit ni de position brillante, ni de fortune. Il faut qu'elle soit aimée, aimée profondément. Je ne veux pas qu'elle ait la plus affreuse des déceptions. Avec vous, qui connaissez toute ma vie, je puis parler ouvertement. » « Je veux, continuai-je avec passion, qu'elle ait toutes les joies que je n'ai pas connues, qu'elle soit adorée. Je ne veux pas d'un mariage de convenance. Il faut qu'elle boive à la coupe dont je n'ai connu que la lie et que sa belle jeunesse ait le rayonnement qui a manqué à la mienne. » « Quoi ? Toujours vibrante ?» Je tournai les yeux vers le jardin, souriant de pitié et pleurant presque sur ma faiblesse, moi qui me croyais consolée. « Vous ai-je donc oublié au point de ne plus pouvoir vous deviner ?» me dit Marien affectueusement. « Ne sais-je pas que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas penser autrement ?»« Eh bien, » dis-je vivement. « André l'aime, je vous l'affirme, » me répondit-il d'un ton simple et ferme, plus convaincant que de vives protestations. Je restai silencieuse, essayant de dominer mon émotion. « Il est impossible, reprit Marien, qu'il ne vous soit pas sympathique. Il suffit de causer une heure avec lui pour sentir que c'est un brave cœur. » « Oui, c'est ainsi que je l'ai jugé. Mais quelle garantie me donnez-vous pour l'avenir? Quelle éducation a-t-il reçue? Je ne veux pas que les sentiments religieux de ma fille, qui sont le ressort de sa vie morale, soient bafoués devant elle comme les miens l'ont été si souvent et deviennent une cause de souffrance. » « J'ignore jusqu'où va sa foi, me dit-il en souriant, mais vous causerez avec lui. Je sais du moins qu'il a eu sous les yeux les exemples que vous eussiez donnés à votre fils. S'il n'a pas la conviction qui fait agir, et je vous répète que je n'en sais rien, il a l'éducation qui l'empêchera toujours de froisser un sentiment qu'il respecte. Pour moi, je vous l'avoue, je vois plus de garantie de bonheur dans une bonne, une excellente nature comme la sienne, que dans tous les principes religieux du monde. Vous avouerez du moins que les deux garanties ne s'excluent pas, dis-je en riant. André est un travailleur et un homme qui aime avant tout la vie de famille. Que voulez-vous de plus? C'est que, dis-je avec vivacité, ma fille, que vous verrez si gaie, enfant quelquefois, a une nature sérieuse et raffinée. Beaucoup de choses la feraient souffrir. Malgré sa jeunesse, Gilberte a une réelle valeur morale, elle n'est pas la première venue. Je dois le savoir, car je l'ai déjà entendu répéter bien des fois, me dit Marianne en riant. Un amoureux ne se lasse pas des redites. Ah, dis-je, il ne l'aime donc pas seulement pour sa beauté, il a compris, apprécié son caractère. S'il en était autrement, je ne plaiderais pas sa cause et serais le premier à vous dissuader de conclure ce mariage, me répondit-il gravement. Dans les montagnes où nous avions passé l'été précédent, il m'arrivait souvent de suivre un sentier triste, étroit, resserré entre des roches élevées qui se rejoignaient presque dans leur partie supérieure. Dans ce petit chemin, l'obscurité était presque complète et j'y respirais toujours difficilement. Il débouchait brusquement sur un plateau et de là, un pays admirable ravissait la vue. Une lumière vive et variée, un air un peu âpre mais rafraîchissant, produisait, après l'étouffement passager, une sensation de vie, d'excitation, d'enthousiasme que je ne me lassais pas d'aller chercher. C'est au moral ce que j'éprouvais en écoutant Marien. Dans quelques instants, me dit-il en se levant, cet amoureux passera à l'extrémité de votre parc. Je lui ai dit qu'il était intempestif de venir aujourd'hui dans ces parages, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas rester une journée entière sans voir Rocheplate et qu'il s'arrangeait de façon à contempler chaque jour la maison, à défaut de l'habitante aimée. Oh, je lui pardonne bien toutes les incorrections de ce genre, dis-je en riant. La vieille fille ne pleurait de joie pendant que je lui racontais ma conversation avec Marien. Toutes les garanties de bonheur sont trouvées, lui dis-je. Et que dit-elle, la chère mignonne? C'est ce soir que son père et moi lui en parlerons, mais je connais sa réponse. Je ne suis point curieuse, mais je voudrais bien le voir. Précisément, je venais te chercher. S'il n'est pas encore passé, tu le verras. Et comme autrefois, mais avec bien plus d'intérêt encore, me semble-t-il, nous attendons toutes les deux ce nouveau fiancé. Je le vis bientôt passer un peu loin du château, en flâneur qui compte sur un hasard heureux pour avoir le droit de s'arrêter. Lorsqu'il m'aperçut, il s'approcha en rougissant jusqu'aux oreilles. Gilberte, qui avait entendu le pas d'un cheval, vint s'accouder à une fenêtre en devenant toute rose de satisfaction. Et tous les deux restèrent à se contempler avec une mine un peu confuse qui faisait sourire la fine. « Il n'est pas aussi bien tourné que votre mari, ma chère dame, me dit-elle. Mais il a une bien bonne figure. Il n'a pas du tout l'air de l'extravaguer comme il y en a tant. »« Pas très bien tourné, monsieur Carvon ? Affreuse petite vieille, que dis-tu là ?» Et Gilberte, qui était venue nous rejoindre, la secoue légèrement par les épaules en l'embrassant avec effusion. Le soir, pendant que, assise près de moi, elle écoute son père qui lui soumet tous les avantages du projet que nous caressons, je suis tout à coup saisie de crainte en songeant au chemin rocailleux que j'ai parcouru. Si nous nous trompions, j'appuie la main sur mon cœur pour en comprimer les battements désordonnés qui, à la moindre émotion, m'étouffent depuis quelque temps. « Mère, qu'as-tu ? » me dit Gilberte. Je regarde ses yeux riants dans lesquels je découvre une nouvelle expression de bonheur. Mes craintes sont chimériques. Je suis au milieu de joies naissantes que les chagrins, les luttes de ma vie doivent protéger. « Qu'en dis-tu, mon enfant chéri ? » demandai-je tremblante. « Monsieur Carvon me plaît infiniment, » répondit-elle avec la décision qui était dans son caractère. « Alors, tu acceptes tout de suite ?»« Je crois bien, vous me dites vous-même que tout est parfait comme convenance. Je trouve l'homme charmant. Il n'y a qu'une voix pour dire qu'il a du cœur, de l'intelligence, de... »« Comme tu prends feu, » interrompis-je en souriant. « T'aurions-nous parlé de lui si nous avions pensé différemment ?»« Le temps n'est plus, » dit mon mari en l'embrassant, « où les jeunes filles, en pareille occurrence, devaient se montrer hésitantes et confuses. » Quand, quelques jours plus tard, M. Carvon, avec une émotion qui me le fit aimer, lui passa au doigt la bague de fiançailles, je songeai qu'il y avait dans la vie des jours pleins de grâce et de repos qui la rendent bien belle. « Ma chère dame, me dit la fine, ça me console de tous mes chagrins de vous voir si contente. » Pas plus qu'un peuple heureux, des fiancés radieux n'ont pas d'histoire. Les semaines avaient passé, et le jour du mariage étant fixé, il fut convenu que nous irions ensemble prier le curé de publier les bans. Cette idée enchantait Gilberte parce que tout la ravissait. « Quel charmant but de promenade !» nous disait-elle. Elle s'en réjouissait comme d'un acte important qui marquait d'un saut définitif sa belle destinée. Elle reprocha gaiement à son père de ne pas vouloir nous accompagner et entraîna Marguerite avec nous. « Je suis contente quand ceux que j'aime sont témoins de mon bonheur. » Nous partons dans cette longue soirée de juin, suivant gaiement le chemin qui mène à l'église. Marianne et moi, nous nous amusons de leur manège, qui consiste à marcher le plus rapidement possible, afin de manifester leur indépendance. Gilberte se retourne et nous crie « Les officiers ne sont pas forts en agriculture. Vous n'imaginez pas toutes les bévues qu'ils commettent en parlant des moissons. » Et ils repartent en riant. Elle fait résonner ses pas d'un air délibéré. Lui se penche un peu pour lui dire de tendres paroles. C'est bien l'incarnation de la joie qui passe entre les sainfoins roses et les luzernes fleuries. Lorsque nous arrivons à la porte du presbytère, Gilberte sonne de toutes ses forces en disant « Jeanne, la servante, va sursauter d'effroi et monsieur le curé, qui est doué d'une aimable malice, me taquinera, mais je suis d'avis qu'il faut carillonner son bonheur. » Sur cette déclaration, elle ouvre une porte qui n'est fermée qu'au loquet. Nous passons sous une sorte de porche, puis sous de vieux noisetiers, et entrons dans le potager, au milieu duquel une allée droite nous conduit au petit jardin qui s'étend devant le presbytère. Gilberte jette des cris d'admiration à la vue d'une clématite mauve dont les fleurs sont d'une grandeur extraordinaire. « Quelle merveille, monsieur le curé » s'écrie-t-elle. Le curé vient d'arriver sur son perron et sa physionomie spirituelle s'égaie devant Gilberte. « Bah » répond-il, « que d'autres merveilles vous voyez tous les jours, mademoiselle. »« Lesquelles, monsieur le curé ?» Et celles qu'on découvre à chaque pas dans le pays du bonheur et de la chimère. Chimère, comment vous traite, André ? S'écrie-t-elle en riant. Mais j'avais bien dit que monsieur le curé me taquinerait. Qu'elle est donc charmante dans sa joie franche et naïve, au milieu d'un cadre paisible qui fait ressortir son exubérance. Le petit jardin est plein d'œillets blancs qui sentent bon. Des roses fleurissent de tous côtés sur leurs tiges épineuses. Des nuées de pigeons s'envolent avec grand tapage sur l'église, puis, en rang serré, ils vont se percher sur une barre de fer qui attache une étroite et haute cheminée au toit pointu du presbytère, dont les ardoises sont couvertes de mousse jaune. Ils ont l'air de bons philosophes qui, des hauteurs où ils planent, contemplent avec une indulgence orgueilleuse l'homme et ses rêves. Le curé nous invite en riant à entrer, et la servante, subissant comme nous tous la contagion de la joie, regarde les fiancés avec un sourire qui épanouit son honnête figure. Il y a dans cet ensemble une paix, un calme, qui, m'enveloppant d'une impression de bien-être inexprimable, me font désirer de prolonger indéfiniment ce moment de ma vie. En revenant au château, Gilberte a l'air plus grave, et bras dessus, bras dessous, ils s'en vont devant nous, devisant sur des riens mystérieux de la plus haute importance. « Comme vous avez l'air heureux, » me dit Marien. « Oui, la réalité dépasse le rêve. » « Il aime ardemment. Je vous avais bien dit que vous deviez avoir confiance. » C'est précisément parce que je la vois s'engager dans la vie avec cette sécurité que je suis si heureuse. Nous rentrons au moment où le crépuscule tombe sur ce dernier jour de joie, dont les détails sont gravés dans ma mémoire comme des caractères dans les reins. « Il y a des gens que cette heure de la journée attriste, » nous dit Gilberte. « Eh bien, moi, pas du tout. J'aime autant le crépuscule que le matin. On a des masses d'impressions dans ce moment-ci, un peu sérieuses ou mélancoliques peut-être, mais c'est charmant quand même. » Lorsque je la sais endormie, j'entre doucement dans sa chambre et, comme autrefois, je veille auprès d'elle en songeant avec reconnaissance que mes prières ont été écoutées. Ma tâche est bientôt accomplie, mais je voudrais vivre quelque temps encore pour jouir de son bonheur. » Le lendemain, de grand matin, son fiancé vint la voir. Il partait pour Paris afin de régler lui-même quelques affaires et mon mari l'accompagnait.
« Nous séparer déjà !»
disait Gilberte d'un air moitié souriant, moitié boudeur. « Bien longue séparation !» répondit son père en riant. « Nous revenons après-demain. »
« C'est vrai, répondit-elle. 48 heures sont bientôt passées, mais n'importe, c'est ennuyeux. »
En arrivant à Paris, lui dit M. Carvon, « je vous enverrai une dépêche que vous aurez ce soir. »
« Délicieuse idée! Une dépêche bien longue, n'est-ce pas ? »
dit-elle joyeusement. La voiture attendait depuis longtemps, sans qu'ils pussent s'arracher à leurs effusions. Le cocher souriait sur son siège. Les têtes curieuses et riantes des autres domestiques apparaissaient aux fenêtres. La fine me disait, en levant les épaules d'un air content et un peu narquois,
« Dame, je vous demande un peu si c'est pas dérisionné de tant s'aimer. Il va manquer le train si monsieur ne l'emmène pas. »
Louis poussa en riant le fiancé dans le coupé et Gilberte grimpa dans les greniers pour apercevoir plus longtemps la voiture sur la route. Elle passa la journée à s'agiter entre le salon et la lingerie, ne se lassant pas de répéter à la fine qu'il n'y avait jamais eu sur la terre une femme aussi heureuse que Gilberte Donnel.
« Voyez-vous, mon petit trésor, je suis surtout contente pour votre maman, parce que je n'ai jamais rien aimé qu'elle. »«
Je comprends, » répondit Gilberte plus bas, car elle savait que je n'étais pas loin.
« Mon bonheur la console. »
« Je vous dis pas qu'elle ait besoin d'être consolée, mamselle. »
« Tu as raison de n'en pas parler, » répondit-elle d'un ton très sérieux.
Le soir, vers 7 heures, j'étais dans le jardin qui s'étage d'un côté en terrasse. Une partie du mur d'appui, qui borde la première plateforme, s'était effondrée la veille. La brèche était dangereuse parce qu'elle était dissimulée par la vigne vierge qui, quoique affaissée avec le mur, cachait cependant la solution de continuité. J'étais au bas de la terrasse, élevée d'environ 5 mètres, au-dessus de l'endroit où je me promenais, en écoutant la belle voix de ma fille, dont les notes très pures arrivaient jusqu'à moi. Le piano et la voix se turent subitement, et un appel de Gilberte me fit lever les yeux.
« Mère, la voilà! C'est Monsieur Marnien qui l'a apporté !»
s'écriait-elle en agitant le papier bleu au-dessus de sa tête.
« Je vais te la lire du haut de la terrasse !»
Elle s'avançait en courant.
« Attention au trou !» dit Marnien. « Prends garde, prends garde » criai-je.
Cri d'alarme inutile. L'élan était pris, ses pieds s'embarrassèrent dans la vigne vierge et, à quelques mètres de moi, elle tomba sur les pierres du mur écroulé. Comme dans un cauchemar épouvantable, je la vis portée, brisée, dans ma chambre et, au milieu d'un effarement indicible, j'entendis donner l'ordre de ramener des médecins en toute hâte.
« Mais en attendant, il y a quelque chose à faire, mon cher monsieur !»
dit une vieille voix familière et sanglotante.
« Je crains, je ne crois pas !»
répondit Marien, dont le visage bouleversé augmentait ma stupeur.
« Les autres médecins ne seront peut-être pas de votre avis !»
reprit la fine avec une sorte de colère. Ils arrivent, restent longtemps penchés sur Gilberte, et je fais de vains efforts pour sortir de l'état qui paralyse mes facultés. Mon étrange insensibilité disparaît quand Marien, me prenant silencieusement la main en pleurant, m'apprend ainsi que ma fille est perdue. Elle reprit connaissance au moment où je revins à la réalité des faits et demanda d'une voix faible, effrayée,
« Est-ce que je vais mourir? Je me sens bien mal !»
Personne ne put répondre. Le curé, que quelqu'un était allé chercher, entra en cet instant et Gilberte se mit à pleurer en disant
« C'est donc vraiment le pays de la chimère, monsieur le curé !»
Lorsque je revins auprès d'elle, son calme apparent disparut dans une explosion de douleur.
« Ma vie est si belle, mère! Ne me laisse pas mourir! Je veux vivre! Pauvre André, pauvre père! Je veux les voir. Leur a-t-on télégraphié de venir? Je ne suis peut-être pas atteinte mortellement. Je puis vivre jusqu'à leur arrivée, n'est-ce pas? Oh, ma chérie!
Mais c'était bien inutilement que je l'entourais de mes bras pour la protéger.
Nous nous aimions tant. André ne se consolera pas. Il m'aime trop. Tant de fois il me l'a dit. Hier, c'était si charmant.
Puis elle essayait de s'oublier pour ne penser qu'à moi. Ensuite, elle retombait dans la désespérance et me suppliait de lui dire qu'elle n'allait pas quitter la vie séduisante qui, la veille encore, lui ouvrait la source de ses largesses. Une sorte de calme remplaça ce désespoir déchirant. Elle parlait paisiblement, avec une résignation derrière laquelle je sentais la douleur immense, la douleur inénarrable de laisser son bonheur. Elle s'efforçait, à cause de moi, d'écarter les souvenirs qui la troublaient. Atterrée, je suivais les signes de son affaiblissement, essayant de balbutier quelques mots de tendresse pour l'encourager. Elle murmura
« J'ai du courage !»
Une heure peut-être avant la fin, je pris mon Christ et le lui donnai. Elle le regarda longuement, puis me dit
« Je sais que bientôt je serai heureuse, mais j'aurais tant voulu vivre. Et puis toi, mère chérie !»
Elle laissa tomber le crucifix et fit un léger mouvement, comme si elle avait voulu se réfugier plus avant dans mes bras.
Il a été ton seul soutien pendant de longues années. J'ai deviné, mère, deviné bien des choses. Maintenant, tu seras de nouveau seule avec lui. Mais tu m'as dit bien des fois. »
Elle s'arrêta, épuisée, mais me regardant de nouveau, elle reprit d'une voix moins distincte.
« Dis-leur que je voulais les voir. J'aurais dû te cacher mes regrets. Pauvre mère !»
Ce fut son dernier mot, et un instant après, ma fille s'en allait à Dieu.